La région est en pleine mutation. Parmi les nouvelles industries, l'industrie du textile, encore bien vivante, s'est transformée. Donc on assiste à une vraie mutation des textiles traditionnels au textile contemporain, avec des matières que beaucoup de gens ignorent. Ce n'est plus forcément du coton, de la laine, etc. On fait un petit peu le point sur ce sujet avec Monsieur Jean-François Braque, qui est secrétaire général de Club Tex. Bonjour Monsieur Braque.
Et bonjour monsieur.
Donc effectivement, pour la région, la grande époque du textile classique s'est terminée il y a déjà un bon moment, la concurrence étrangère faisant rage, et il a fallu un petit peu trouver des solutions alternatives, des réorientations de notre industrie grâce à l'intelligence régionale, notamment des universités et des écoles qui travaillent sur le textile, de nouveaux produits et de nouvelles applications.
Oui, tout à fait. Les industriels du textile traditionnel sont partis un peu à la fois vers ce marché de beaucoup de niches qui est le textile technique. Pourquoi ce marché se développe-t-il de 3 à 5% par an? C'est parce que simplement il s'agit d'un nouveau matériau. C'est un matériau souple qui a beaucoup d'avantages puisqu'il suit les formes. On peut lui conférer moult propriétés, hein, non-feu, antibactéries, etc., etc. Et comme il est léger, il est intéressant par exemple dans le milieu des transports. Il est intéressant également dans le milieu médical. On fait des implants avec du textile, avec des caractéristiques extraordinaires, et au lieu d'avoir des pièces métalliques ou des plaques métalliques dans le corps, on peut mettre maintenant, pour une certaine partie de maladie, du textile. Qu'on arrive même, qui colle même comme de l'adhésif, si vous voulez, sur l'intérieur du corps pour résorber des excroissances intérieures, hein, des hernies.
Donc effectivement, dans la région, il y a le textile qui sert à l'habillement, à la mode, etc., aux vêtements. Et il y a cette nouvelle industrie, celle qui révolutionne l'aviation, les grands projets futuristes, on va dire, où on a besoin de légèreté et de qualité tout à fait précise. Et donc les textiles entrent dans des cahiers des charges particuliers.
Oui, tout à fait. Le textile technique doit répondre à un cahier des charges et souvent à des normes européennes. Et donc, en fait, la démarche pour arriver à un textile technique est la suivante. Vous avez devant vous quelqu'un de l'industrie, mettons du bâtiment, qui n'y connaît rien en textile, mais qui connaît bien son milieu. Et vous, textilien, vous connaissez bien le textile, mais pas le bâtiment. Donc pendant 3 ans, l'un et l'autre, les deux parties vont travailler ensemble pour faire évoluer un produit existant. Et enfin, lui faire subir X tests pour répondre aux normes européennes qu'exige le client. Pendant ces 2 à 3 ans, des liens d'amitié se créent, je dirais, entre le fournisseur et le client, parce qu'il faut une confiance totale pour arriver au produit final. Et ensuite, le produit, s'il convient, peut vivre des années et des années. J'ai vécu cela dans mon ancienne entreprise et j'avais des produits qui avaient plus de 20 ans d'existence, mais qui étaient parfaitement au point pour l'emploi qu'on attendait d'eux.
Alors, quand vous dites fournisseur, c'est à la fois un fournisseur, mais aussi un fabricant. La façon de fabriquer ses process, etc., ils viennent de l'entreprise elle-même ou partent aussi de la recherche des universités?
Alors là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt une évolution de produit à partir d'un produit existant. Et grâce au pôle de compétitivité, hein, il y a des développements importants en recherche appliquée et dans lesquels les universités sont très utiles. Les chercheurs nous amènent de nouvelles idées, vont créer de nouvelles fibres ou des nouveaux mélanges. Par exemple, une des recherches dans lesquelles il est indispensable d'avoir des chercheurs de haut niveau, c'est les composites. C'est un monde très complexe et les industriels seuls n'y arriveraient pas.
Donc, c'est en l'occurrence sûrement Polytech?
Oui, tout à fait. L'école des mines de Douai, et puis l'ENSET à Roubaix, qui vient de sortir quand même 150 étudiants tout à fait récemment. Donc on voit vraiment qu'il y a un redéploiement vers ce milieu industriel.
Merci, Monsieur Jean-François Braque. Donc, on va présenter deux lauréats qui ont été repérés pour une baignoire nomade.
Bonjour, Adrien Bétrémieux. Donc, je suis étudiant en Master 2 à l'école d'architecture de Villeneuve-d'Ascq. Et je suis avec mon confrère Jean-Charles.
Bonjour Jean-Charles.
Je suis aussi étudiant en Master 2. Je passe mon diplôme au mois de juillet de cette année.
D'accord. Donc, ce projet, c'est un projet d'études de master, un projet de master?
C'est le projet, donc le concours qui est organisé par FUTEX. On l'a rendu avec tout un groupe d'étudiants de l'école dans le cadre d'un séminaire exploratoire, donc porté sur le textile. Et le professeur Suzanne Hirschi a décidé que de rendre ce concours était une très bonne manière d'approcher et d'appréhender les problématiques du textile innovant.
Donc ce projet baignoire nomade, il est porté par deux étudiants ou par un groupe?
Donc dans le séminaire exploratoire, nous sommes plusieurs équipes à avoir répondu au concours FUTEX. Les équipes étaient composées de entre 2 et 10 étudiants. Nous, nous étions deux, mais certaines équipes étaient un peu plus. Il y a eu, je crois, dans le concours, 19 projets qui ont été présentés.
Tout d'abord, on a répondu à un sujet qui était un peu le thème, qui était les textiles cachés. Et donc, on a réfléchi en fait à l'usage du textile par rapport au fait qu'il puisse être caché. Et comme nous, on travaille l'architecture, on étudie l'architecture, on travaille sur l'espace. On est parti sur une réflexion sur comment gagner de l'espace. Et la particularité du textile, c'est justement qu'il soit souple et qu'il puisse être replié. Et donc, en cherchant sur cette idée, on s'est demandé quel élément de l'habitat, qui est un élément de confort, pouvait être réduit à, on va dire, à du textile au niveau de sa surface. Et la baignoire, c'est un objet très encombrant. Et donc, on est parti sur cette idée de pouvoir faire d'un ob un objet qui soit un objet de confort, quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Comme on est étudiant, on a souvent des petits appartements avec des simples douches, des petites salles de bain. Et voilà, sur cette réflexion, on a pensé à un projet qui puisse être à la fois modulable, qui puisse avoir plusieurs fonctions, plusieurs usages, et qui puisse aussi répondre au fait d'être justement un textile qui peut être caché, donc qui puisse être replié et rangé simplement.
Donc, il faut un matériau qui, pour être plié, soit très souple et en même temps qui soit capable d'accueillir un volume insuffisant d'eau, donc avec des contraintes particulières.
Oui, voilà, on a pensé la baignoire avec deux parties. Une partie qui est la partie qui reçoit l'eau, qu'on a appelée le hamac d'eau, qui est une partie donc qui est souple, qui est composée d'un textile technique qui à la fois est résistant à l'eau, mais comme un nénuphar à peu près. Donc l'eau ruisselle dessus, elle ne pénètre pas du tout, et ce qui permet, une fois qu'on a rempli la baignoire et qu'on l'a vidée, qu'elle soit directement sèche et qu'on puisse tout de suite la ranger. Mais on voulait que justement ce textile technique ait plusieurs fonctions. On voulait qu'il soit bien sûr assez résistant pour pouvoir supporter la charge de quelqu'un, plus de l'eau qu'on va y mettre dedans. Mais on a pensé également à d'autres usages. On voulait aussi un usage extérieur, par exemple pour la baignoire, qu'on puisse l'utiliser sur une terrasse, dans un jardin, près de la mer. Et on voulait aussi que ce tissu puisse, avec l'énergie solaire, qu'on puisse chauffer l'eau également. Donc voilà, c'était plusieurs caractéristiques techniques de ce tissu.
Donc là, vous avez optimisé par rapport à un usage relativement particulier.
Oui, on voulait aussi que ce soit modulable. Donc en fait, si vous voulez, la structure se replie comme un accordéon. Donc une fois qu'il est rangé, ça ne prend pratiquement pas de place. Lorsqu'on installe le hamac dessus, il y a plusieurs dimensions de hamac. Un hamac qui peut correspondre à un adulte, en fait. Donc la baignoire va avoir une hauteur de baignoire enfin standard. Mais on peut aussi adapter un autre hamac qui est plus adapté à la toilette des enfants, par exemple. Mmh. Ce qui fait qu'on va moins déployer la structure en accordéon, donc elle sera plus haute, elle sera des dimensions d'un enfant, et c'est aussi un objet qu'on ne trouve pas beaucoup. Donc des baignoires d'enfants, souvent, elles se posent au sol, elles se posent en des baignoires, mais là, vraiment, c'est multi-usage, ça sera adapté aux adultes qui lavent un enfant, ça sera adapté aux adultes qui veulent se baigner. Et on voulait aussi également voilà, que ça puisse être utilisé dans différents endroits. Donc la première utilisation, c'était dans une douche traditionnelle, de mettre la baignoire à l'intérieur de cette douche, d'utiliser l'évacuation de la douche, bien sûr, d'utiliser la tuyauterie existante de la douche pour remplir sa baignoire. Donc d'utiliser l'équipement existant et utiliser uniquement la baignoire comme réceptacle à eau et pouvoir la ranger rapidement.
Donc on imagine aussi qu'on va pouvoir laver bébé partout.
C'était le but, que ce soit à proximité d'un endroit où on puisse remplir la baignoire, mais de pouvoir le laver partout sans être courbé, de pouvoir le laver en étant debout. Parce que c'est aussi un grand problème, c'est que les baignoires souvent sont posées au sol ou sont très basses et les gens passent, nettoient leur enfant, le dos plié en deux. Et ceci, voilà, pour répondre à des usages.
Voilà, donc... Comme vous le disiez, ce projet demande maintenant un temps et des moyens, je le suppose, pour être réalisé concrètement.
Exactement. Et on est sur la fin de nos études tous les deux, donc Jean-Charles, dans les 6 prochains mois, va être beaucoup pris par ses études, et moi, ça sera le semestre suivant. Donc pour l'instant, on a mis un peu ça en pause, on en discute avec nous, mais on aimerait vraiment porter ce projet à un niveau de prototype. Beaucoup de gens nous ont dit que c'était une idée intéressante, etc. Donc le but vraiment, c'est vraiment d'aller jusqu'au prototype, mais pour l'instant, on est un peu, on va dire, pris par la fin de nos études.
Est-ce que vous avez déjà déposé un brevet ?
Oui, c'est prévu. Il y a plusieurs. Enfin, on va poser le premier niveau de brevet pour protéger l'idée. Mm-hmm. Mais sinon, non, toujours pas de brevet.
Bon, donc vous cherchez des associés ?
Oui.
Voilà. On va donner peut-être un contact au cas où quelqu'un serait intéressé, qui est à l'écoute.
Donc on peut contacter l'école d'architecture de Lille. Je pense donc de demander à Adrien Bétrémieux ou Jean-Charles Lecointre, ou sinon nous joindre directement par mail. L'adresse c'est h-bétrémieux, B-E-T-R-E-M-I-E-U-X, @lille.archi.fr.
Ce sujet a été réalisé par René Laverne de Radio Campus dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.